Remerciez soit le Seigneur de ce que cela soit ainsi. Les gens changent. Les temps changent. Mais le Seigneur reste le même pour l'éternité. Il n'y a jamais de changement, jamais d'obscurcissement. Il habite dans une lumière où personne n'a accès. Dieu est incorruptible. Dieu est incorruptible. Dieu ne prend pas parti. Dieu a un plan, il a un programme. Et c'est dans ce plan qu'il veut faire entrer l'humanité. C'est seulement de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de jouer à la religion, de célébrer des cultes ou d'accomplir des actes religieux, ecclésiastiques, mais de faire réellement partie soi-même du plan éternel de Dieu. Et pour garantir cela, nous devons avoir reçu la vie éternelle, avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle ne vient pas d'un acte religieux. C'est écrit que c'est en lui qu'était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Celui qui l'a, a la vie éternelle. Celui qui a le Fils, et celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie éternelle. Moi aussi, je suis reconnaissant pour la soirée d'hier. Il n'y a pas de meilleure réunion que celle où Dieu lui-même peut agir. Des réunions où la parole et l'Esprit de Dieu peuvent être efficaces, où il se passe effectivement quelque chose qui se prolonge dans l'éternité, qui se prolongera dans l'éternité, qui nous fera entrer dans l'éternité. Et ce fut le cas hier. Aujourd'hui encore, nous sommes ici dans une grande attente. Non pas dans l'attente de voir ou de constater quel exposé pourrait être donné. Les hommes de Dieu n'ont pas donné des exposés. Ils n'ont pas philosophé. Ou bien alors donné des conférences. Les hommes de Dieu ont proclamé la parole de Dieu sous l'impulsion de l'Esprit, poussé par l'Esprit. Et ce, de telle manière que d'autres qui l'entendaient comprenaient le plan de salut de Dieu, qu'ils étaient sauvés et qu'ils étaient béatifiés. La même chose se produit encore aujourd'hui, comme nous l'avons lu hier soir. L'apôtre Paul n'a pas dit avec de grands, n'a pas parlé avec de grandes paroles de sagesse humaine ou d'érudition. Mais c'est en toute simplicité que la parole de la croix a été annoncée. Et tous ceux qui s'inclinent devant le crucifié doivent se mettre à genoux et reconnaître que c'est là que le salut, la réconciliation et le pardon de l'humanité a été accompli par Dieu lui-même. Vous savez que j'ai beaucoup voyagé. J'ai visité personnellement 100 pays exactement et j'y ai annoncé et proclamé la parole du Seigneur dans ces pays. J'ai vu et entendu beaucoup de choses. J'ai vu aussi et lu concernant d'autres religions. Le christianisme n'est pas une religion. Ce sont les hommes qui en ont fait une religion. En Christ, Dieu s'est révélé personnellement pour tendre la main de la réconciliation à l'humanité, pour ramener l'humanité à la communion avec lui-même dont elle avait été séparée et éloignée de Dieu. Et comme je l'ai dit hier soir, cela ne s'est pas passé n'importe où, n'importe comment. Cela s'est passé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ est une nécessité, une obligation divine. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est ce que doivent se dire les Juifs, les musulmans et les chrétiens, les hindous, et qui qu'ils soient. Celui qui veut être sauvé doit emprunter la voie divine. Et Jésus a dit, « Personne ne vient au Père que par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Combien pouvons-nous être reconnaissants? Nous être reconnaissants de que cela nous soit allé droit au cœur. La plupart des gens ont leur religion en tête. Même lorsqu'ils méditent et pensent pouvoir se perdre quelque part, ils sont déjà perdus de toutes les manières. À l'avance, ils n'ont même plus besoin de se perdre. Le salut ne vient que du Seigneur. Mais perdre ses pensées ne change absolument rien pour nous. Lorsque nous revenons à nous, nous nous voyons là où nous étions auparavant. Mais si nous venons au Seigneur et invoquons son nom, cette personne ne peut pas rester là où il était. Cette personne est sauvée. Cette personne sort du domaine des ténèbres et est transférée dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour, comme c'est écrit. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de voir des gens faire l'expérience avec Dieu. C'est la plus belle expérience. Un chant, le poète chante et c'était le plus beau jour que Dieu m'ait jamais donné quand Jésus est venu dans mon obscure existence terrestre. Le plus beau jour est celui où tu as reçu la certitude de ton salut, où l'Esprit de Dieu lui-même t'a rendu témoignage. Maintenant, Dieu m'a accepté. Désormais, je suis devenu sa propriété et je le resterai pour l'éternité. Notre Seigneur dit, « Je suis venu pour qu'il soit pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance, la vie de Dieu lui-même, la vie opérée par l'Esprit de Dieu, la vie éternelle. » Il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, que l'Esprit, il parlait de l'Esprit qui viendra et que cet Esprit deviendra en nous une source qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire, mais ce que Dieu a fait pour notre salut. Et c'est ça qui est valable et rien d'autre. Et il l'a fait pour nous, avec nous et en nous, par grâce. Combien s'en réjouissent. Je pense que nous tous qui avons fait l'expérience avec Dieu, parfois, je suis un peu attristé de me mettre à la place des gens et de penser qu'il y en a, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'arriver et qui veulent entendre un discours bien ficelé, tout bien construit et comme ça se doit. Et tout à coup, ils constatent que la prédication est simple. Mais cela restera ainsi jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas ici pour nous faire entendre et voir. Nous sommes ici pour faire en sorte que personne ne soit vu et entendu si ce n'est Jésus-Christ lui-même, comme le sauveur, le guérisseur, celui qui sauve. J'ai eu l'occasion de parler à une dame qui a été opérée à la clinique universitaire de Düsseldorf. Elle m'a demandé que Dieu l'aide. Cette dame a 85 ans et l'opération lui faisait très peur. J'étais dans cet hôpital juste avant l'opération. Il y a quelques jours, je lui ai tenu la main et j'ai remarqué à quel point elle était inquiète. Et cela lui a fait du bien de savoir qu'il y avait quelqu'un qui priait. C'est surtout dans ce genre d'occasion que l'on voit des gens qui n'ont pas la certitude d'être la propriété du Seigneur. Ensuite, elle a eu le courage de dire à monsieur le professeur que ce sont les prières qui ont aidé et qu'elle devrait et qu'ils devraient eux aussi aller écouter M. Frank prêcher, car il prêche la parole de Dieu. C'est vrai, elle avait le courage de dire ça au professeur de l'hôpital. C'est quand même un beau témoignage. Ensuite, j'ai aussi parlé avec le professeur et nous espérons que Dieu en appellera effectivement encore quelques-uns à sortir. Je crois simplement qu'avant la fin du temps de grâce, du temps de la grâce, Dieu va encore le faire. Et cela ne saurait tarder. Une récolte abondante sera encore faite. Quand cette femme d'un âge avancé, en voyant cette dame, je me suis souvenu de la parole d'Ésaïe 46, qui s'adresse peut-être aussi à nous tous. Et puis, nous revenons au Nouveau Testament. Dans Ésaïe 46, au verset 3 et 4, il est dit, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et tout le reste de la maison d'Israël, qui avait été chargé sur moi dès le ventre de votre mère, porté par moi dès le sein maternel, même jusqu'à votre vieillesse, je resterai le même. Et jusqu'à votre vieillesse, je vous porterai comme un fardeau. Je l'ai fait jusqu'à présent et je vous porterai encore. Oui, je resterai chargé et je vous délivrerai. » Un chant dit « Dieu veut te porter sur les mains. » Il nous porte jusqu'à la vieillesse. Et il est dit ici « Dès le ventre de ma mère, dès le ventre de votre mère, je me suis chargé de vous et j'ai pris la responsabilité sur vous. Vous m'appartenez. Je vous porte. Je prends soin de vous. Je me soucie de vous. Oui, depuis le sein maternel, je vous ai porté et je vous porterai jusqu'à la vieillesse. Certains d'entre nous sont déjà d'un âge avancé et se demandent ce qu'ils vont devenir. En tant que jeune, vous ne pouvez peut-être pas tout à fait comprendre cela, mais si le temps devait durer, il y aurait encore bien des leçons à tirer de notre chemin. Les personnes d'un âge avancé se demandent davantage ce qu'il en sera à la fin que celles qui commencent à peine leur vie. Laissez le Seigneur vous dire aujourd'hui qu'il s'est chargé de vous. Il vous a enlevé votre fardeau. Vous n'êtes pas seul. Il vous porte. Il est avec vous jusqu'à la fin. Oui, il est là pour vous amener de l'autre côté. Juste lorsque la dernière heure sonnera et que les derniers instants arriveront. Il n'est pas seulement fidèle dans la vie, il est aussi là dans la mort. Il s'est occupé de tout. Ne vous inquiétez de rien. Faites confiance au Seigneur. Il fera toutes choses bien. Il a dit, je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et jusqu'à ce que vous deveniez, vous ayez les cheveux blancs et que vous ayez vieilli. Je vous porterai comme un fardeau. Je l'ai fait jusqu'à présent. Amen. Le Seigneur a dit, je l'ai fait jusqu'à présent, au verset 4 d'Ésaïe 46, et je vous porterai encore. Oui, je resterai chargé et je vous délivrerai. Pas condamné, mais sauvé, délivré. Ça, c'est l'intention divine. Notre salut. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme nous l'avons souvent dit, il n'y a qu'une seule personne qui a la vie éternelle, et c'est Dieu. Tous les anges, tous les chérubins et séraphins ont eu un commencement. Ils ont été créés à un moment donné, tout comme l'homme a été créé. Mais Dieu, lui, n'a pas de commencement. Dieu n'a pas non plus de fin. Dieu est d'éternité en éternité. Et Dieu veut que les hommes soient éternellement avec lui, auprès de lui. Et c'est pourquoi qu'il devait lui-même venir dans la chair. Il devait devenir homme afin que la vie de Dieu lui-même puisse être manifestée ici sur terre. Et c'est pourquoi le verset cité précédemment était déjà en lui, que en lui était déjà la vie et que la vie était la lumière des hommes. Notre Seigneur n'est pas venu pour fonder une nouvelle religion, pour fonder une association. Il est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Il est venu pour sauver notre vie de la fosse et nous couronner de grâce et de miséricorde. C'est pour cela qu'il est venu. Le cœur de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ doit être remis au centre. Aucun homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu par l'enseignement. Par un enseignement, on peut lire par cœur ou réciter le grand et le petit catéchisme. Cela ne sert à rien. Quel rapport cela a avec être sauvé, avec notre salut? Rien du tout, rien du tout. Et c'est justement ce qui est un scandale pour la plupart des gens, qui est devenu la plus grande bénédiction pour ceux qui sont sauvés, à savoir la croix, comme nous l'avons entendu hier soir. La parole de la croix est une folie pour les uns, un scandale pour les autres. Et ils disent, oui, pourquoi fallait-il que ce soit ainsi? Dieu avait-il besoin de prendre ce chemin ou de choisir cette manière pour nous sauver? Regardez, tout remonte au paradis, à la chute de l'homme. Il faut savoir ce qui s'y est passé là-bas pour comprendre ensuite pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Par la chute, l'humanité a été séparée de Dieu et elle devait être réconciliée de nouveau avec, elle devait être réconciliée avec lui. Et c'est précisément ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Revenons à la parole que nous venons de lire, puis à quelques passages biblique. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous avons lu des choses merveilleuses, à savoir du verset 10, 1 Corinthiens 2, verset 10. mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. Tout ce qui vient de Dieu nous est donné par la révélation de l'Esprit. Celui à qui Dieu ne se révèle pas ne saura jamais qui est Dieu. Il aura une conception intellectuelle, une chose fabriquée sur Dieu, mais ne saura jamais qui est vraiment Dieu. Et il ne pourra pas comprendre la révélation de Dieu en Christ, à moins qu'elle ne lui soit révélée par l'Esprit. Ici, Paul a écrit à ceux qui sont devenus croyants en disant, « Mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. » Verset 10, 1 Corinthiens 2. « Pas un homme. » Pas en ayant pris des cours particuliers. Donc, non, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Comment Dieu révèle-t-il sa volonté et sa parole? C'est par l'Esprit. Et cela sous la proclamation de l'ensemble du plan de Dieu. C'est ainsi que nous est révélé, pièce par pièce, donc partie par partie, oui, l'ensemble du plan du salut de notre Dieu est révélé aux hommes et cela sous la proclamation par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller de maison en maison, de frapper aux portes ici et là pour dire aux gens qu'ils doivent, eux, se réveiller. Non. Il faudrait que beaucoup se réveillent. Ceux qui disent aux autres, réveillez-vous, ils ont eux-mêmes besoin de se réveiller. À quoi sert-il à un homme de défendre une doctrine qui est vide et qui n'est pas du tout biblique? Pas un enseignement, pas une doctrine, pas une croyance, pas une église, mais il s'agit de la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la foi qui est opérée par l'Esprit sous la prédication. Non pas une chose préparée, inventée, mais ce qui se passe dans notre cœur réellement par l'Esprit. Oh Dieu, mais c'est par l'Esprit que Dieu nous a révélé ces choses. Il relit le verset 10 de 1 Corinthiens 2. Il y a eu des hommes qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est divin, repose sur un fondement supérieur, élevé. Les hommes n'ont pas accès aux choses de Dieu par l'esprit humain. Pour l'explorer, ce n'est pas possible. C'est ce que nous avons lu hier soir. Où serait un sondeur, où serait un savant à qui Dieu aurait pu se révéler? Ils sondent dans leur propre direction. Ils suivent leur propre pensée. Mais Dieu dit, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et cela, autant les cieux sont plus élevés que la terre, autant les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Celles sont élevées, sont au-dessus de nos pensées. C'est pourquoi Dieu n'a jamais pu nommer des scribes comme ses serviteurs et ses messagers. Il prit des agriculteurs, il prit des bergers, des hommes qui ne portaient encore aucune conception en eux. Comment est-ce que Dieu devait faire les choses? Il a pris des hommes qui étaient simples, comme par exemple un Élisée, quand Élie passa devant lui et jeta son manteau sur lui, puis continua son chemin. Élie a dit, reste seulement où tu es. Mais Élisée a su ce qu'il devait faire. Il est retourné sur ses pas, a fait abattre ses douze bœufs. Ou combien il y en avait, il a utilisé les ustensiles pour faire du feu et y mettre les victimes. Donc il a abattu ses 12 jougs de bœuf. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de retour possible. Où pouvait-il encore revenir? Il n'y avait plus qu'un seul chemin et c'était le chemin de Dieu. Que s'est-il passé? Un homme marche sur le chemin, enlève son manteau, le jette sur un autre. Et déjà cet homme qui labourait a compris de quoi il s'agissait. Bien-aimés, nous ne sommes pas de ceux qui veulent faire en sorte que les gens ne poursuivent pas leur formation. Bien au contraire, cela fait partie de la vie que aussi des croyants comme des non-croyants fassent les mêmes activités. Mais lorsqu'il s'agit des choses du royaume de Dieu, ce n'est pas de la recherche qu'il faut faire ici, mais de plier ses genoux devant Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, et de recevoir la connexion, la relation, la communion avec lui. Et c'est de ce lien avec Dieu qui nous est permis de recevoir la révélation divine, de voir et de comprendre toutes choses à la lumière de Dieu. Il est même approprié que les enfants de parents croyants ramènent de meilleures notes à la maison, soient plus travailleurs et fassent tout ce qu'ils peuvent. Mais encore une fois, que cela soit dit en insistant, un Paul aussi, qui savait et connaissait beaucoup de choses, il a dit, « Je laisse tout derrière moi et je le considère comme de la boue, même s'il m'était précieux auparavant, afin de connaître Christ, oui, afin de le connaître et de connaître la puissance de sa résurrection, afin de participer à ses souffrances, afin de participer, pour pouvoir aussi participer à sa résurrection, à la résurrection. » Il faut bien faire la part des choses. La foi biblique ne vient pas de l'intellect. Elle vient de la prédication folle. Nous avons également lu cela hier. Quel professeur ne serait pas trop gêné pour faire un sermon insensé? Cela serait pour lui au-dessous de tout. Il faut rester qui et ce qu'on est, n'est-ce pas? Il faut faire attention au rang et à la réputation et au titre, etc. Non, avec Dieu, nous pouvons oublier tous les titres et nous incliner devant sa face. Et là, le professeur et le balayeur de la rue sont assis dans l'église, côte à côte, dans la même rangée. Il n'y a pas de privilège. Il y a seulement de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Aucun homme ne peut venir et dire, « Seigneur, je suis ceci ou je suis cela. Je dois m'asseoir ici. » Le Seigneur nous donnerait la même réponse que celle que nous trouvons dans Matthieu 7. La porte est étroite et le chemin qui mène à la vie est étroit. Et très peu sont ceux qui le trouvent. Large est le chemin et large la porte qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent, qui y marchent. Il faut décider. Et la décision doit être prise. Si l'homme veut prendre le chemin large qui mène à la perdition ou s'il veut prendre le chemin étroit qui mène à la vie. Mais c'est par l'Esprit, relu le verset 10 de 1 Corinthiens 2, que Dieu nous a révélé ces choses. Auparavant, Paul a écrit ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur d'homme n'en a eu l'intuition, à savoir ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui peut l'aimer? Seuls ceux qui se savent aimés de lui, aimés de lui, appelés à sortir par lui, par amour. Dieu a donc tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul engendré de lui, par lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient en lui la vie éternelle. Dieu tient à sa parole, se tient à sa parole. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous aussi vous serez sauvés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et toi aussi tu seras sauvé. Ce que nul œil n'a vu, ce que nul oreille n'a entendu, ce dont nul homme ne peut avoir idée, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Aimes-tu Dieu? As-tu reconnu l'amour de Dieu pour toi? L'as-tu aimé en retour? Car celui qui a été et sera aimé de lui, l'aimera à nouveau. Il a dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Nous l'aimons et nous aimons tous ceux qu'il a appelés à sortir par amour. Oui, nous aimons tous les hommes, même si tous les hommes ne nous aiment pas. Car nous ne savons pas qui est-ce que Dieu a déterminé à la vie éternelle. Il y a une chose que nous savons, c'est que dès le commencement, c'est par la prédication de l'Évangile que Dieu a voulu appeler les hommes à entrer dans le royaume de Dieu. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création, à toute la créature, à toute créature. Et quiconque aura cru et aura été baptisé sera sauvé. La semaine dernière, c'était l'avant-dernière semaine déjà, quand le sujet était à la radio allemande sur le baptême. J'étais aussi intervenu, sans doute un peu tard. Je ne veux accuser personne de malveillance. En tout cas, j'ai téléphoné à Cologne. Et la dame là-bas m'a demandé au téléphone qu'est-ce que j'aurais à dire, et elle m'a dit, voilà les sujets. D'un côté, il s'agit dans cette émission de radio, le baptême des enfants et le baptême des adultes. Et alors j'ai dit simplement, j'ai une proposition à faire, à savoir que nous parlions aussi du baptême de la foi. Oh, m'a-t-elle dit, oh, c'est intéressant, je vais faire passer le message, peut-être pourrons-nous alors vous rappeler. L'appel n'a pas eu lieu. Ils ne m'ont pas rappelé. Pourquoi? Pourquoi? Ça, Dieu seul le sait. Il n'est pas question de baptême d'enfants ou de baptême d'adultes. Il s'agit du fait que notre Seigneur a dit très clairement que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La foi est la condition préalable au baptême. Le Seigneur n'a pas parlé de parrain et de marraine, n'est-ce pas? Mon Seigneur n'a rien dit et il n'a rien dit de beaucoup d'autres choses encore, non, dont on discute aujourd'hui. Et ce qui me fait toujours mal en de telles occasions, c'est que l'on se trouve sur une fausse piste, que l'on ne touche pas du tout le cœur de la chose qui devait être en fait en jeu. Je pense donc qu'une annonce, une proclamation biblique équilibrée serait enfin à sa place aussi dans notre pays. Oui, qui serait favorable à ce que nous donnions la parole à Dieu, non pas de manière fanatique, mais quand même la parole du Seigneur telle qu'elle est écrite et enseignée, que nous puissions encore l'apporter une fois de plus à l'humanité. Paul disait alors, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. J'aimerais bien inviter les gens à la radio, les gens de la radio et de la télévision pour la réunion de la Pâque. Quelque chose me motive, me touche, m'anime, que Dieu choisisse lui-même le moment. Mais j'en suis convaincu. Nous avons le message de Dieu, la parole révélée avec toutes les promesses, et nous n'en avons pas honte. Les prophètes ont été mal compris. Les apôtres ont été incompris et mal compris. Notre Seigneur lui-même a été incompris. Mais les prophètes étaient envoyés par Dieu. Et nous sommes heureux qu'ils n'aient pas gardé le silence, mais qu'ils aient parlé, et cela au nom du Seigneur. Et ce qu'ils disaient était mis par écrit. Il fut interdit aux apôtres de prêcher encore au nom de Jésus-Christ dans leur époque. Et c'est là que Pierre froidement a dit, « Jugez vous-même, est-il juste que nous obéissions aux hommes plutôt qu'à Dieu ?» La décision est très, très, très simple. Ce n'est pas ce que les hommes qualifient de faux qui est faux, mais ce qui est juste, c'est ce que Dieu a laissé dans sa parole, a légué dans sa parole comme étant juste. Et la parole, les Saintes Écritures sont la référence pour tout homme qui veut devenir croyant. Les Saintes Écritures sont la référence. Et là, vous voyez déjà que la marge de manœuvre est réduite. Ce n'est pas l'adhésion à une église ou à une église libre ou à des églises libres. Mais il s'agit effectivement de l'exigence initiale de notre Seigneur lui-même. Il a dit « à moins que quelqu'un ne naisse de nouveau » Jean chapitre 3. « Sinon, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. » Le jour de la Pentecôte, la foule qui était dans la chambre haute semblait ivre aux yeux de ceux qui sont venus. On disait, sont-ils tous ivres? Ce n'est que la neuvième heure du jour. Pierre se leva et dit, bien-aimés frères, écoutez-moi, vous tous qui habitez à Jérusalem et qui êtes venus ici. Ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le pensez, mais c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, Joël 2, verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, vous pouvez lire cela dans Matthieu 21. La foule était hors d'elle. Elle a crié « Hosanna, louange et action de grâce à Dieu dans les lieux très hauts, à celui qui vient. » Et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'était? Un enthousiasme divin pour ce qui se passait historiquement parmi eux. Si nous dormons et que nous n'avons pas été enthousiasmés, submergés, touchés, emportés, c'est que nous n'avons pas encore vécu le message divin dans son effet, dans son impact. C'est alors que nous l'avons entendu. Ça veut dire que nous l'avons entendu et que nous avons vécu sans avoir expérimenté l'impact, l'effet de la révélation. C'est là que Frère Branham a dit quelque chose de tout à fait merveilleux dans sa prédication dans les sept sceaux. C'est écrit dans l'Apocalypse. Il s'agit de l'huile, de ne pas faire de mal à l'huile et au vin. L'huile indique toujours le Saint-Esprit. Tout a été consacré à Dieu et oint d'huile, les rois et les sacrificateurs, les ustensiles du service divin. Tout a été consacré à Dieu sous l'onction d'huile. Mais ici, le vin s'y ajoute. Le vin stimule, oui, il met de l'ambiance dans ce qui a été révélé par l'Esprit. Bien-aimé, quand je réfléchis et que je me rends compte à quel point Dieu nous a fait grâce et nous a révélé sa parole pour ce temps. Quel accablement, quelle joie devrait nous remplir tous. Là aussi, il m'est venu à l'esprit que nous devrions tous tout simplement être positifs dans notre pensée, dans nos pensées et notre attitude. Les non-croyants sont toujours joyeux, oui, je ne dis pas tous, mais les croyants, moi simplement inclus, la tendance à être grincheux, à faire la tête, oui. À propos de quoi? Est-ce que nous avons de la tristesse? Non, nous avons de la joie. La joie du Seigneur et dans le Seigneur est notre force. Et Dieu nous a parlé, Dieu a parlé avec nous par sa parole merveilleuse. Nous en éprouvons une grande joie. Qu'il a dit à l'époque, je crois que c'était Marie dans sa prière, quand elle a dit, mon esprit exulte en Dieu, mon sauveur. Cela doit nous submerger, nous toucher, nous saisir quand Dieu fait quelque chose. Si cela ne se produit pas, c'est que l'effet n'est pas encore là. Alors nous l'avons entendu, peut-être même enregistré, reçu, mais cela doit, donc accepter, je veux dire, mais cela doit nous submerger, nous saisir, nous toucher. Cela doit entraîner quelque chose. Il faut qu'il y ait un effet, un impact. Ici, dans Luc 1, verset 45, Luc 1, verset 45, il est dit, « Oh, bénis celle qui a cru, car la promesse que le Seigneur lui a faite s'accomplira. » Quel est le thème principal du royaume de Dieu en ce moment? L'accomplissement des prophéties bibliques. Nous vivons dans une période prophétique où ce dont ont parlé les prophètes, notre Seigneur lui-même et les apôtres, s'accomplit sous nos yeux. Et notre Seigneur a dit dans Luc 21, « Quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête, sachant que votre rédemption s'approche, se rapproche. Cela doit déclencher une joie dans notre âme. Lorsque le Seigneur s'est révélé à nous, lorsque sa parole a été révélée à nous par le Saint-Esprit et que nous pouvons soudain voir avec des yeux ouins ce que Dieu a déjà dit et révélé par la parole et l'esprit et que nous pouvons l'observer dans son accomplissement. Ce n'est pas une spéculation. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu, l'accomplissement des prophéties bibliques sous nos yeux. Notre Seigneur a dit à maintes reprises que lorsque vous verrez telle ou telle chose arriver, vous saurez que le temps est venu. Le temps est là. Il ne fait pas que venir maintenant, mais il est déjà là. Le temps est là, le temps de Dieu parmi son peuple. Et pour cela, nous avons besoin d'une pensée positive, d'une attitude positive. Éloignez-vous de toutes les pensées négatives. Éloignez-vous de toutes les conservations négatives. Combien de personnes pensent, « Oh, je vais si mal, je ne me sens pas bien. » Et avant qu'ils ne regardent autour d'eux, ils ne se sentent vraiment pas bien. C'est leur pensée qui leur a donné ce qu'ils ont dit ou pensé. Dans le royaume de Dieu, nous devrions effectivement mettre de côté toute pensée qui ne nous rapproche pas de Dieu. Toute pensée qui cherche à créer quelque chose en nous contre un frère ou une sœur. Il suffit de mettre de côté tout ce qui est négatif dans nos pensées. Dès que c'est négatif, rejetez cela et de remercier ensemble le Seigneur pour ce qu'il a fait. Qui peut dire que Dieu nous a révélé par l'Esprit l'époque dans laquelle nous vivons? Amen. Dieu nous a révélé par l'Esprit les promesses qu'il a faites pour ces jours dans sa parole. Amen. Par grâce, nous avons reconnu le messager et le message. Et nous pouvons assister au jour de la visitation gracieuse de notre Dieu. Vous savez, nous pouvons l'expérimenter. Nous pouvons expérimenter, vivre la visitation gracieuse de notre Dieu. Vous savez comment les gens se sentaient à l'époque quand après 7 fois, 7 ans, quand à la 50e année, la trompette a retenti et que les trompettes ont retenti et que les gens ont pu sortir libres et revenir à ce qui leur appartient, à leur propriété. Quel jour cela a-t-il dû être pour les esclaves? Ils étaient endettés, ils devaient payer ce qu'ils devaient. Et soudain, les trompettes ont été sonnées. L'année du jubilé, oui, a été proclamée et tous les endettés étaient libres. Jésus, notre Seigneur, a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire? Pour proclamer cette année, l'année agréable. Je vous le lis. Il a fait par cela référence à l'année de jubilé. Et vous savez que l'année de jubilé, c'est l'année de grâce du Seigneur. Et elle a commencé avec la première venue du Christ et se termine avec le retour de Christ. Je lis dans Luc chapitre 4, du verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et quand il eut roulé le livre, il tomba sur l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter le joyeux message aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la libération, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est ainsi que commença la prédication de l'Évangile, en s'appuyant sur ce qui avait été préécrit dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, la réalité était là. C'est maintenant qu'est venue la vraie rédemption et la libération. Et notre Seigneur a personnellement proclamé cette année de jubilé. Tous peuvent sortir librement. Cher cœur, personne n'a besoin de se perdre et de périr. Personne n'a besoin de mourir dans son péché. Personne n'a besoin d'être chargé, de repartir chargé d'ici. Notre Seigneur a proclamé lui-même cette année sainte du jubilé. Il a dit, vous êtes libres. Il veut dire, je t'ai racheté, je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Est-ce que nous avons reçu cela, vécu cela, expérimenté cela personnellement? Est-ce que cela t'a bouleversé, t'a touché, t'a saisi? Est-ce que tu t'es mis dans l'ambiance intérieurement, dans la simulation, as-tu été touché? Cher cœur, lorsque les gens vont regarder le football, l'ambiance s'installe soudain, ici et là, dans n'importe quel sport ou n'importe où, quand les gens sont vraiment dans l'action, l'ambiance s'installe. Qu'en est-il de nous? Aucune ambiance divine opérée par l'Esprit de Dieu pourrait, si elle pouvait s'installer, que nous ayons pris conscience de ce que cela signifie d'avoir reçu la grâce de Dieu, par Dieu, d'avoir trouvé le chemin du salut. Et puis aussi, la révélation de tout ce que Dieu a promis à son peuple. Ce ne sont pas des sages et des savants qui nous l'ont fait savoir. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya un message prophétique pour remettre la parole prophétique sur le chandelier. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu fit connaître tous les mystères de la parole qui étaient restés cachés. Car c'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Que disait alors le prophète Daniel? Et quelle était déjà l'annonce à l'époque? Les sages et les intelligents ne peuvent pas l'interpréter. Ni aucun Dieu. Vous savez qu'au jour de Daniel, tous ces sages ont été appelés. Même les astrologues, les divins, ceux qui interprètent les signes, ils devaient tous interpréter le mystérieux manuscrit sur le mur et devaient ensuite admettre qu'ils n'étaient pas familiers avec la chose. Ils ne pouvaient rien faire. Et Daniel a dit, si vous ne pouvez pas me dire, c'était au sujet à propos du rêve, c'était à propos de l'interprétation, et c'est là, il y avait plusieurs expériences. Les plus intelligents qui voulaient qu'il leur raconte le rêve, les plus intelligents voulaient qu'il lui raconte le rêve, et ensuite, il pourrait ensuite l'interpréter. Dans toutes les différentes directions, il n'y aurait pas eu de possibilité d'examiner si ce qu'ils disent comme interprétation est vrai. Mais Daniel a dit, si vous ne pouvez pas me donner le rêve, me raconter le rêve et son interprétation, alors oui, alors c'est fini pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il ne pouvait pas continuer. Et tout à coup, une dame est venue et a dit, dans ton royaume, il y a un homme de Dieu, un prophète, un homme à qui la parole et la volonté de Dieu ont été révélées. Et il a dit aussi, je ne suis pas capable non plus de faire ce que le roi demande. Mais il y a un Dieu, au ciel qui révèle les secrets. Alléluia. Et il alla vers ses trois amis et leur dit, pensez à moi, souvenez-vous de moi dans vos prières. Et déjà, que s'est-il passé? Et déjà, ce qui s'était passé le lendemain, il pouvait raconter le songe et son interprétation. Il y avait des hommes dans le royaume de Dieu qui étaient liés avec Dieu, des hommes à qui Dieu parlait et par lesquels Dieu lui-même pouvait parler. Même dans les moments critiques, c'est justement à ce moment-là que nous avons besoin de Dieu et de sa parole. Et je crois que nous sommes arrivés à une époque extrêmement critique. Tout est confus. Tout se mélange et s'entremêle dans une confusion spirituelle. Il fallait indiquer clairement la direction divine. L'enseignement originel devait être remis sur le chandelier. Et vous savez que les sages et les érudits ne s'y connaissent pas. Ils ont même encore du mal avec Matthieu 28 pour l'exécution pratique de l'ordre de mission. Là aussi, la révélation n'est pas la chair et le sang qui peut révéler cela. Il doit s'agir d'une révélation de Dieu. Et tout homme qui lit lentement et porte le respect dans son cœur respectera la parole telle qu'elle a été écrite. Donc concernant le baptême, Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez donc dans le monde entier enseigner toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations, les baptisant. Dans le nom. Distinguez-vous parmi les gens, ils ne comprennent pas qu'il s'agit du nom. Que ton nom soit sanctifié. Dieu n'est pas un inconnu, un Dieu sans nom. Dieu a un nom rédempteur pour le temps de la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, le nom de l'Ancien est le Seigneur Dieu. Donc, il y avait le nom du Seigneur. Il y avait de nombreuses désignations avec, comme Elohim, et de nombreuses désignations avec Yahvé. Mais le nom de Yahvé était le nom d'alliance de Dieu, du Seigneur, celui de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Il est le Seigneur, il est le Seigneur des armées, il est le Seigneur Sébaoth, il est beaucoup de choses. Mais le nom Yahvé, c'était le nom de l'alliance. Dieu a dit à Moïse, je me suis fait connaître, je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais je ne leur ai pas révélé mon nom, avec la conclusion, avec la, l'alliance faite dans l'Ancien Testament. Le nom qui appartenait à l'alliance faite a été révélé, et ce nom était Yahvé. C'est de la même manière que dans le Nouveau Testament. Dieu comme Père au ciel s'est révélé. C'est peut-être la raison que nous prions. Notre Dieu qui est aux cieux, nous n'offrons, nous ne prions pas autrement. Notre Seigneur nous a ainsi appris à prier. Le même Dieu s'est révélé dans le Fils qui pouvait dire, celui qui me voit, voit le Père. Crois-moi que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Car ce n'est pas moi qui fais ses œuvres, mais le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Donc, le même Dieu s'est révélé dans le Fils afin ainsi de pouvoir appeler à l'existence des fils et des filles de Dieu selon le premier modèle du premier-né. Christ, le commencement de la nouvelle création, le premier-né de cette création divine, lui, le commencement, et nous devons être comme lui. Et nous serons transformés à son image. Ainsi, Dieu s'est révélé comme Père dans le Fils et à la Pentecôte par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous et ensuite finalement Dieu à nous. Trois révélations de Dieu. Mais l'unique nom qui appartient à notre rédemption, tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous savons que la version grecque de Jésus devrait s'appeler, en fait, devait être en fait Yahshua. C'est de là qu'est dérivé le nom de Josué qui signifie tout simplement Yahvé sauve. Non seulement, pas seulement Yahvé, mais Yahvé sauveur. Yahvé sauveur. Tu appelleras son nom Jésus. C'est dans ce nom que Dieu s'est révélé à l'humanité en Christ. Et lorsqu'il est écrit de baptiser justement au nom, dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Esprit alors nous révèle, comme à Pierre et Paul et à Philippe, que ce nom est Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi tous ont été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est très simple. Et les érudits disent, vous voyez, la Bible se contredit. Non, ce n'est pas vrai. La Bible ne peut pas se contredire. La Bible a toujours raison. Le malentendu et la contradiction sont dans l'interprétation des hommes qui est dans leur tête, mais pas dans la parole de Dieu. Non, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur, reconnaissants du fond du cœur, que nous pouvons assister à ce, nous pouvons vivre en ce temps de grâce cette conclusion glorieuse de l'œuvre de Dieu. Et soyons prêts pour l'amour du nom de Jésus à porter l'opprobre. Tous les autres, quelle que soit leur tendance ou leur appartenance, ils ne portent pas d'opprobre, que ce soit les mouvements charismatiques, que ce soit le mouvement pentecôtiste, quel qu'il soit, qui porte l'opprobre? Qui porte l'opprobre aujourd'hui? Jésus disait alors, « À cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations. » À partir du moment où il y a des gens à qui ce nom, qui est au-dessus de tout nom, a été révélé dans sa signification divine pour le baptême, pour la prière. Donc, fondamentalement, celui à qui ce nom est révélé par l'Esprit, alors il le glorifie avec raison, parce que la révélation a eu lieu en eux. Les autres chantent, « Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. » Et quand vous venez les voir et que vous leur dites, en fait, vous devriez être baptisé dans ce nom, alors là, ils frappent autour d'eux avec leurs pieds et leurs mains et ils sont dans de grands problèmes. Mais pourquoi? Si ils exaltent ainsi ce nom avec la bouche, pourquoi ne pas le confesser dans le baptême d'eau, etc. En effet, se confesser à lui, c'est bien cela. Alors, ce serait la deuxième étape. Cela en ferait tout simplement partie. Mais le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi. Tout le monde peut venir à la paroisse, à l'église libre. Mais le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire premièrement. Et celui qui est ainsi attiré par Dieu, par l'Esprit, ainsi, et qui vient, pas seulement à une église, mais qui vient à Christ, vraiment à Christ, et expérimente Christ, c'est à lui qu'il se révèle, c'est à lui qu'il se révèle. Il ne fait plus de suppositions ni d'hypothèses, c'est à lui qu'il se révèle. Nous pouvons tous chanter en toute confiance alors, « Tu t'es révélé à moi, il s'est révélé à nous par grâce. » Nous savons qui il est. Le Yahvé de l'Ancien Testament est devenu le Jésus du Nouveau Testament. Il a pu dire dans l'évangile de Jean, avant qu'Abraham soit, je suis. C'était lui qui marchait dans le jardin d'Éden, mais pas encore en tant que fils de Dieu, en tant que Yahvé, en tant que Seigneur dans le corps spirituel. Il faisait partie de l'équipe de trois hommes qui ont rendu visite à Abraham dans Genèse 18. Il est écrit plusieurs fois au singulier. Puis l'Éternel est resté avec Abraham, le Seigneur, et les deux anges sont allés à Sodome. C'est lui qui a parlé aux prophètes et par les prophètes. C'est lui, le Logos, qui au commencement est sorti de la plénitude de Dieu et est entré dans une forme visible. Le Dieu invisible, qui est esprit, a pris une forme visible. Déjà dans cet moment. Et c'était Yahvé, c'était le Logos. Ça, c'était le Seigneur. Comme je l'ai dit dans l'Ancien Testament, il était dans l'immortalité du corps. Et c'est pourquoi, comme l'explique l'Épître aux Hébreux, il devait être abaissé pour un temps parmi eux. Il devait être abaissé pour un temps au-dessous des anges à cause de sa souffrance de mort, à cause, donc pour souffrir la mort, afin de pouvoir mourir et engloutir ainsi la mort dans la victoire et ôter à la mort son pouvoir et de mettre en lumière une vie et une nature incorruptible. Croyez-moi, tous les passages bibliques ont leur raison d'être. S'il est écrit du Fils de Dieu, alors c'est vrai et c'est bien. S'il s'agit de lui comme fils de l'homme, c'est vrai. S'il est écrit concernant le fils de David, c'est vrai aussi. Il est roi, sacrificateur, prophète, c'est vrai. Il est médiateur, intercesseur, avocat, c'est vrai aussi. S'il est homme, c'est vrai aussi. Il était un homme, trouvé comme un homme, comme tous les autres hommes. Il mangeait et il buvait et il se fatiguait. Ça, ce ne sont pas les caractéristiques de Dieu. Il s'est complètement extériorisé. Il est entièrement passé à l'être humain. Et vous savez, ces derniers jours, j'ai réfléchi au fait que notre Sauveur était au temple à l'âge de 12 ans. Eh bien, j'ai pensé à moi-même, comment on peut formuler cela? Là, un garçon de 12 ans, comment dois-je m'adresser à lui? Dois-je dire que c'était maintenant le Seigneur? Enseignant, le Seigneur n'a pas d'âge. Le Seigneur est de toute éternité. Et voici le Seigneur enveloppé de linge déposé dans une crèche. Mais c'est ainsi que c'était. Qu'est-ce qui est écrit dans l'annonce? Aujourd'hui, le Christ est né pour vous dans la ville de David. Le Seigneur, réfléchissez-vous un peu à cela, le Seigneur de gloire a déposé toute gloire, toute domination. Il s'est fait homme ici, engendré par le Saint-Esprit, un corps saint dans lequel il s'est manifesté ici, a grandi en grâce et en sagesse. Il a grandi, si nous parlons en termes terrestres, à l'âge d'homme, qu'il est grand notre Dieu. Que de choses a-t-il prises sur lui par amour pour nous? Et ils se sont moqués de lui et ils l'ont ridiculisé. Il était Seigneur à sa naissance. Il était Seigneur quand il était là-bas dans le temple, selon notre calendrier, à 12 ans. Il était Seigneur à 30 ans. Il était Seigneur avant 1 million et sera Seigneur après 1 million. Il n'est venu dans le temps que pour nous, qui étions soumis au temps et donc à la corruptibilité pour devenir comme nous et nous sortir de cette corruptibilité et nous donner par grâce la vie éternelle. Ne vous inquiétez pas. Par grâce, nous pouvons laisser chaque passage biblique tel qu'il est écrit et reconnaître alors le sens et la signification qu'il a pour nous. Pour nous, si Paul a écrit là-bas, mais à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. La révélation de Jésus-Christ nous est vraiment parvenue par l'Esprit. Dieu voulait ramener les hommes à la condition divine. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures parlent de la race divine, de la sainte, du saint sacerdoce, de la royauté que nous sommes et que Dieu a fait de nous. Pouvez-vous tous comprendre cela? Pouvez-vous l'accepter? Pouvez-vous y croire? Est-ce que cela vous a été révélé? Il s'est abaissé lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour ensuite, par son obéissance, annuler notre désobéissance et donner la vie éternelle par grâce à tous ceux qui lui obéissent. Dieu a fait de grandes choses. S'il vous plaît, ne vous cassez pas la tête, mais croyez de tout cœur que c'était pour notre bien et que vous en tirez les bénédictions que le Seigneur nous a destinées. Il a dit, je vous porterai, jusqu'à ce que vous soyez vieux, jusqu'à ce que vous ayez des cheveux blancs. Je me suis chargé de vous, je vous porte. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous les frères et sœurs plus âgés, revendiquez cela aussi personnellement pour vous. Quand les choses ne vont pas comme vous en aviez l'habitude, dites alors, Seigneur, tu me portes. Tu m'as mis à part dès le ventre de ma mère. Et vous savez que c'était en fait les prophètes. Ils ont été mis à part dès le ventre de leur mère pour appartenir au Seigneur. Nous aussi, nous tous qui prendrons part à la première résurrection, nous avons été choisis par Dieu avant même la fondation du monde. Dieu savait quand et où nous naîtrions. Il connaissait notre vie. Personne ne pouvait décider. Tout devait se passer comme il le voulait, comme il entendait. Ne vous plaignez pas de votre destin. Remerciez Dieu de vous avoir fait grâce et de vous avoir donné le privilège de connaître tout ce que Dieu nous a donné en Christ. En Christ. Et puisse aussi s'accomplir ce qu'un qu'une stimulation se saisisse de nous et que nous puissions devenir reconnaissants. Je sais que nous ne pouvons pas l'exprimer ainsi et ce n'est pas non plus à cause du volume de la voix, mais c'est l'intimité qui nous permet d'offrir de tout cœur à Dieu notre reconnaissance coupable. Donc la reconnaissance que nous lui devons, non pas par obligation, mais étant poussée dans notre cœur pour lui rendre la reconnaissance que nous lui devons. Ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur d'aucun homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et nous pouvons l'aimer et garder ses commandements. Et nous pouvons nous aimer et nous aimer les uns les autres de l'amour divin et nous porter les uns les autres. Dieu nous porte, tous supportons-nous aussi les uns les autres dans l'amour de Dieu. Louons son Saint Nom. Amen. Amen. Nous nous levons pour prier. Seigneur, ensemble, nous te remercions aujourd'hui. Nous sommes touchés, mais nous ne pouvons pas l'exprimer ainsi. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Non, nous te suivons et tu es la parole. Et celui qui te suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Ta parole est révélée et devient une lumière sur notre chemin. Seigneur, je te remercie. Ton action, tes paroles et même tes actes sont si vastes et si variés de nos jours. Je te remercie de ce que nous pouvons vivre maintenant et de ce que tu as ouvert nos yeux. Tu as accordé à notre cœur la compréhension comme tu l'as fait autrefois. Seigneur, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque tu parlais avec nous? Seigneur, bien-aimé, je suis plus conscient que jamais que ce n'est pas un homme, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui, par l'intermédiaire de lèvres humaines, a apporté la parole, a révélé les mystères. Seigneur, tu as dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas de ce que vous devez dire, car ce que vous devez dire vous sera inspiré à l'heure même. Nous te remercions pour les nombreuses heures d'inspiration de ton esprit, d'inspiration directe, d'onction du Saint-Esprit et de la révélation de ta parole et de ta volonté. Seigneur, tu as sur la terre un peuple qui t'a connu et qui a été connu de toi. Un peuple qui porte ton nom et qui honore ton nom. Nous te prions, sauve, délivre, fais entrer, insère dans ton église tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Seigneur, tu nous as également bénis au cours de ce service divin. Tu nous as fait prendre conscience de ce que tu nous as préparé. Et aussi, tu fais que nous devons et tu nous as montré la nécessité d'avoir la vie éternelle pour pouvoir être éternellement avec toi, auprès de toi. Seigneur bien-aimé, tu es venu de la gloire. Tu as pris la forme d'un serviteur. Tu t'es fait homme pour l'amour des hommes. Et tu as maintenant fait d'enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en ton nom. Alléluia. Gloire et honneur à toi pour cela. Et nous rendons grâce aussi parce que l'heure s'est rapprochée où tu reviendras chercher les tiens à la maison. Seigneur, c'est par grâce que nous serons là-bas, que nous te verrons et que nous passerons l'éternité avec toi. Que ta sainte bénédiction repose sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu. Amen. Bien-aimés, je suis rappelé concernant Apocalypse 5 où l'agneau a fait le livre, a pris le livre pour ouvrir les sceaux, a pris le livre pour ouvrir les sceaux, pour ouvrir et révéler. Et il est écrit que personne n'avait été trouvé digne. Seulement l'agneau qui est aussi en même temps le lion de la tribu de Juda. En tant qu'agneau, il est le rédempteur. En tant que lion, il est le roi. Mais toujours le même, bien qu'il soit montré dans différentes fonctions. Ensuite, les 24 vieillards se sont prosternés. Il y a eu une adoration, une louange qui s'éleva vers Dieu. Nous aussi, avec un cœur reconnaissant et une bouche joyeuse, chantons à la gloire de notre Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur, de recevoir louange, honneur, gloire et adoration. Tu est digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Sa vérité parcourt tous les pays. Alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Sa vérité parcourt tous les pays. Ses vérités parcourent tous les pays. Amen. Amen.